Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Et oui, l'antenne vous appartient, nous sommes vendredi. Vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. La Libre Antenne, ce sera dans 30 minutes. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces jours-ci dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous êtes nombreux à commenter la tournée africaine de François Hollande. Il est attendu aujourd'hui, cet après-midi d'ailleurs, au Cameroun. Réaction également sur la menace islamiste dans Sardine, en Côte d'Ivoire. Les djihadistes, au Mali, s'en prennent désormais aux pays voisins. Des commentaires aussi sur le dialogue national au Congo-Brazzaville. L'annonce a été faite cette semaine par le président Denis Sassou Nguesso. Bref, les sujets ne manquent pas. Vous nous appelez, vous commentez l'actualité. 33 9 693 693 70. Et les réseaux sociaux, évidemment, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Raphaël nous appelle du Mali, il est à Ségou exactement. Bonjour Raphaël.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous avez des questions concernant la Cour pénale internationale et l'autorité palestinienne.
Parfaitement.
On vous écoute.
J'ai appris à RFI que la Palestine a traduit Israël devant la CPI pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Alors, je voudrais savoir quel est le contenu du dossier qui traduit Israël à la CPI.
Alors, il y a eu effectivement plusieurs documents transmis par le ministre des Affaires étrangères palestinien à la Cour pénale internationale. Les Palestiniens qui vont tenter de convaincre la Cour de poursuivre des responsables politiques et militaires israéliens pour crimes de guerre. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Jérusalem. Concrètement, sur quoi portent les documents déposés sur le bureau de la procureure de la CPI ?
Alors, il y a trois thématiques abordées. La colonisation, les prisonniers et la guerre à Gaza. Par exemple, des photos, des images satellites sont fournies sur l'évolution de la colonisation israélienne en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. L'objectif des Palestiniens est de démontrer que les Israéliens sont coupables de crimes, puisqu'ils exproprient des Palestiniens de leurs terres. Je rappelle que la colonisation est illégale, hein, au regard du droit international. Sur les prisonniers, les Palestiniens entendent montrer qu'il y a des arrestations arbitraires, des mauvais traitements, notamment sur les enfants, et des détentions qui durent. Enfin, sur la guerre à Gaza, des crimes de guerre ont été commis, selon les Palestiniens, sur les civils, sur les enfants notamment. Il y a plusieurs cas assez connus que les Palestiniens veulent mettre en avant. Donc, des informations assez précises. Maintenant, vous l'avez rappelé, ça va être à la procureure de la CPI de décider ou non d'ouvrir une enquête. Elle a déjà ordonné en janvier dernier un examen préliminaire de la situation en Palestine.
Et si elle estime qu'à l'issue de cet examen, les faits prouvant qu'effectivement il y a eu des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ont été commis, si ces faits sont suffisants, la procureure pourra à ce moment-là ordonner une enquête. Mais enfin, la procédure pourrait durer des années. Vous avez une autre question, Raphaël ?
Oui. Quelle est la réaction d'Israël par rapport à ce dossier ?
Alors, les autorités israéliennes ont-elles réagi, Muriel ?
Oui, dans une réaction assez courte, un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères, que je vous cite, le dossier palestinien est juste une tentative de manipuler la Cour et nous espérons que la procureure ne tombe pas dans le piège. Voilà, en gros, Israël espère que la procureure n'ouvrira pas d'enquête. L'État hébreu, depuis le début, a critiqué les Palestiniens pour avoir adhéré à la CPI. Ils ont d'ailleurs été sanctionnés par un gel pendant plusieurs mois de taxes qui leur étaient dues. Et Israël a aussi critiqué l'ouverture de l'enquête préliminaire lancée en janvier dernier par la procureure sur la situation en Palestine, estimant que c'était scandaleux.
À suivre donc. Merci beaucoup Muriel Paradon d'avoir été avec nous. On signale au passage la réaction à Washington de la Maison Blanche qui a qualifié la démarche des Palestiniens de contre-productive, précisant que Washington s'opposerait à toute initiative en ce sens. Merci Muriel Paradon, merci à Raphaël qui nous écoute à Ségou. Ségou, c'est à 240 km au nord de Bamako, au Mali, où il est 8h15. Boubacar, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Vous avez des questions concernant le Ramadan en Chine?
Oui. D'accord. Nous avons appris, allô?
Oui, on vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Voilà. Nous avons appris sur les médias que les autorités chinoises ont interdit le jeûne du mois de Ramadan au Weibo.
Oui.
Une fois, je voudrais savoir pourquoi les autorités ont pris cette mesure. Et en plus, quelle est la réaction de la population ouïghour à cette décision?
Oui, les Ouïghours, qui sont des musulmans vivant dans une région de l'ouest de la Chine. Marie Holzmann est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sinologue, je vous présente quand même, sinologue, présidente de l'association Solidarité Chine. Comment expliquer la décision des autorités de Pékin?
Bah, ma première réponse sera extrêmement simple. Il s'agit d'une dictature, et d'une dictature communiste, et donc matérialiste, athéiste, et globalement hostile à toutes les questions spirituelles. Mais dans le cadre de la province du Xinjiang, que les Ouïghours appellent le Turkestan oriental, c'est un peu différent. La répression au Xinjiang est très forte depuis déjà, je dirais, au moins 20 ans, et ça s'est aggravé depuis 2001, et toutes les mesures contre le terrorisme. En essayant de supprimer le Ramadan, ils ont commencé par demander aux fonctionnaires ouïghours de ne pas respecter Ramadan. Puis ils ont augmenté la sphère en demandant aux étudiants, aux écoliers de 16-18 ans de ne pas respecter le Ramadan. Mmh. Et maintenant, les mesures sont beaucoup, beaucoup plus fortes parce que la résistance des Ouïghours est plus grande.
Et on signale que les restaurants ont reçu l'ordre de fonctionner normalement, de rester ouverts sous peine d'être sanctionnés.
Voilà, donc maintenant les restaurants ne doivent pas rester ouverts tard le soir, ils doivent rester ouverts toute la journée, et on leur a dit pour les allécher un petit peu que pendant cette période, il n'y aurait pratiquement pas de contrôle sur l'hygiène de la nourriture. Donc on pourrait faire plus de business en quelque sorte. Mais le problème est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que, et on voit ça dans la province du Tibet aussi, la répression sur toutes les cultures halogènes, c'est-à-dire des cultures qui ont d'autres langues, d'autres religions, d'autres aspirations à une vie spirituelle notamment, sont durement réprimées en Chine aujourd'hui. Alors, la réaction de la population, puisque c'est aussi la question de votre auditeur, eh bien, il y a seulement quelques jours, il y a eu un attentat dans la région de Kashgar, et comme à chaque fois, ça se passe hélas toujours de la même façon, il y a deux ou trois Ouïghours qui provoquent un petit incident avec une guérite de police. À ce moment-là, l'armée arrive, l'incident dégénère et ça se termine toujours par, en général, 15 à 20 Ouïghours qui sont tués à bout portant par la police et quelquefois, bien sûr, deux ou trois prisonniers chinois aussi qui sont tués. Quand je dis chinois, c'est-à-dire de l'ethnie Han et non de l'ethnie Ouïghour.
Oui, l'ethnie Han qui est l'ethnie majoritaire en Chine, et d'ailleurs on assiste depuis maintenant une vingtaine d'années à une sinisation forcée de la région du Xinjiang pour faire en sorte que les musulmans ouïghours soient de plus en plus minoritaires dans cette région où, à l'origine, ils étaient majoritaires. Savez-vous, en deux mots vraiment, Marie Holzmann, si la population respecte l'interdiction ou malgré tout, les Ouïghours font le Ramadan?
Je pense qu'une bonne partie des Ouïghours vont essayer de faire le Ramadan, mais c'est vrai que seuls ceux qui se trouvent dans des régions un peu isolées ou dans des maisons bien closes pourront le faire. Ceux qui travaillent vont être surveillés et du coup on va les forcer à manger, ce qui est quand même quelque chose d'invraisemblable à notre époque.
Merci beaucoup, Marie Holzmann, d'avoir été avec nous, sinologue. On remercie Boubacar, évidemment, de nous avoir appelé. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, la libre antenne, vos commentaires, vos réflexions sur l'actualité de la semaine, 33 9 693 693 70. Autre question, elle nous vient du Congo-Brazzaville. Bonjour Teddy.
Bonjour.
Vous nous appelez de Pokola, c'est à 800 km au nord de Brazzaville. C'est ce que je lis sur ma petite fiche, c'est l'information que vous avez donnée au standard, mais c'est bien d'avoir des précisions sur les villes d'où vous nous appelez. Vous avez des questions concernant le mariage homosexuel aux États-Unis?
Exactement. Nous avons appris récemment que la Cour suprême américaine a légalisé le mariage homosexuel. Mmh. Et à ce sujet, j'ai trois questions. La première, c'est pourquoi juste maintenant? Pourquoi récemment cette adoption. Et la deuxième, c'est quelles vont être les répercussions de cette décision sur la législation de chaque État.
Ouais, c'est vrai que plusieurs États ont jusqu'à présent interdit le mariage homosexuel. On va y voir plus clair avec Anne Desine qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Alors c'est vrai que la semaine dernière, enfin il y a tout juste une semaine d'ailleurs, à une courte majorité de 5 juges contre 4, la Cour suprême américaine a légalisé le mariage pour tous. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce fut un très très long combat pour les militants.
Oui. Et en fait, c'est intéressant, c'est une affaire qui dure depuis 15 ans, mais ça montre bien comment le droit se fabrique aux États-Unis. En France, nous avons voté une loi. Ça a été un peu compliqué, mais on a voté une loi. Aux États-Unis, parce que c'est un système fédéral et un système où le judiciaire est puissant, ça se passe différemment. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans chacun des États. Certains ont validé le mariage homosexuel, le Massachusetts, Hawaï, la Californie. Et puis, il y a des réactions, parfois une initiative populaire, comme en Californie. Et puis, à un moment, ceux qui sont en faveur du mariage homosexuel, du mariage pour tous, vont saisir les juridictions fédérales parce qu'elles sont compétentes pour tout ce qui touche à la Constitution et en particulier un principe constitutionnel important qui est l'égal, protection de la loi. Donc ces gens-là, ceux qui sont les partisans du mariage homo, disent c'est une violation du droit puisque les homosexuels ne se voient pas reconnaître l'accès au mariage. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps, mais c'est aussi parce que la Cour suprême n'a pas voulu tomber dans le piège de ce qu'elle a fait pour l'avortement en 73, où elle a statué trop tôt, et par conséquent ça a suscité un tollé et une réaction. L'avortement, et on utilise le mot avortement qui est un mot marqué, n'est toujours pas accepté aux États-Unis.
Alors pour revenir au mariage pour tous, avant la décision de la Cour suprême, le mariage homosexuel était reconnu dans 36 des 50 États. Que va-t-il se passer dans les 14 États qui interdisent le mariage homosexuel ?
Et à la décision de la Cour, l'opinion majoritaire est rédigée par le juge Kennedy, qui avait déjà rédigé toutes les opinions en faveur du mariage homosexuel, dont la première qui interdisait de sanctionner pénalement la sodomie. Donc le juge Kennedy a écrit très très clairement, maintenant les États doivent accorder les licences, puisqu'aux États-Unis il faut obtenir un license pour se marier, donc oui. Accorder les licences de mariage et reconnaître, ça c'est très important, les mariages qui ont été légalement contractés dans un État qui lui accepte le mariage homosexuel.
Voilà, Ça veut dire que on vous entend de plus en plus mal, Anne Desine, vous êtes sur un téléphone portable et votre voix se robotise légèrement et on n'a malheureusement pas le décodeur pour vous décrypter. Ce qui signifie, si je comprends bien, c'est que la décision donc de la Cour suprême s'impose sur l'ensemble du territoire américain et que désormais tous les États vont devoir reconnaître le mariage homosexuel ou même ils sont obligés d'unir deux personnes de même sexe si elles souhaitent se marier. Merci Anne Desine. Je sais que Teddy avait une dernière question, mais comme avec vous le réseau se dégradait, on va vous remercier dès maintenant. Bonne journée à tous les deux. Il est 10h23 à Paris. On prend une autre question au standard. Vous avez évidemment entendu parler des révélations de nos confrères de Libération et de Mediapart sur l'espionnage par les services secrets américains des présidents français Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et cette semaine, toujours grâce à nos confrères, on a appris qu'au moins deux ministres français de l'économie, Pierre Moscovici et François Baroin, ont également été surveillés par l'agence de renseignement américaine. Bonjour Michel.
Bonjour Rohan.
Vous nous appelez de Lomé, vous êtes au Togo. On vous écoute.
D'accord. Nous avons appris sous vos ondes que trois derniers dirigeants français ainsi que la chancelière allemande ont été écoutés par la NSA. Ma question est de savoir si les renseignements français et allemands écoutent eux aussi la Maison Blanche.
Bonne question, effectivement. Bonjour à Maëlle Guiton.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, justement, à Libération, spécialiste des questions de cybercriminalité, pardon. On dit que tout le monde espionne tout le monde. Est-ce que la France est en mesure d'espionner les États-Unis et en l'occurrence la Maison Blanche ?
Alors, le fait est qu'on n'en a évidemment aucune preuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'essaie pas, mais dans le cas de la NSA, disons que les indices se sont accumulés. Il y a eu d'abord, évidemment, les documents d'Edward Snowden il y a 2 ans, et puis on a de plus en plus d'éléments. Là, ce qu'on a publié récemment avec Mediapart, c'était des comptes rendus d'interception. Donc on a le smoking gun, comme on dit. En ce qui concerne que ce soit le renseignement français ou le renseignement allemand, on n'a pas du tout ce type de preuve, jusqu'à ce qu'il y ait un éventuel lanceur d'alerte se manifeste. Ceci étant, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le risque diplomatique n'est pas le même quand on parle de la France ou de l'Allemagne ou des États-Unis. Manifestement, les États-Unis prennent le risque diplomatique de fâcher leurs alliés, sans doute parce qu'ils ont considéré pendant très longtemps qu'ils ne se feraient jamais prendre. Je ne sais pas dans quelle mesure la France et l'Allemagne prendraient exactement ce type de risque, sachant que ces deux pays ont plus besoin, je dirais, des États-Unis que l'inverse. Et puis après, il faut voir aussi qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur.
Ah, oui.
On avait repéré des chiffres avec un de mes collègues quand on avait fait justement une espèce de petit comparatif entre le renseignement français et le renseignement américain.
Et vous êtes arrivé à quelle conclusion ?
Bah, le budget des agences américaines pour 2013, par exemple, c'est 52,6 milliards de dollars.
Ah oui, oui, moi j'avais 50 milliards de dollars, donc j'étais pas loin, effectivement, 50 milliards de dollars pour l'ensemble des agences américaines.
Pour l'ensemble des agences américaines et pour l'ensemble du gouvernement, du renseignement français, c'est 1 milliard d'euros. Donc on est dans un rapport de 1 à 50, quand même, très clairement. Même au niveau des effectifs, la NSA, c'est 35 000 personnes à elle seule. Les services français, tout compris, c'est 11 000 personnes. Donc on n'est effectivement pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Il y a aussi un avantage comparatif, hein, si on peut dire, pour le renseignement américain, c'est que la plupart des entreprises de haute technologie qui se sont imposées sont américaines. Et il y avait dans les documents de Snowden, il y a 2 ans, un certain nombre d'éléments qui montraient que la NSA avait aussi mis des portes dérobées, par exemple, dans du matériel ou dans des logiciels, ce que, a priori, les Français ou les Américains, les Français où les Allemands peuvent beaucoup plus difficilement faire. Après, ça ne veut pas dire que le renseignement français ou le renseignement allemand n'ont aucune capacité, bien au contraire. On a vu quand même ce scandale autour du renseignement allemand, le BND, qui a espionné d'ailleurs des entreprises européennes pour le compte de la NSA.
Oui, notamment des entreprises françaises et même l'Elysée, si ma mémoire est bonne.
C'était le Quai d'Orsay, en l'occurrence.
C'était le Quai d'Orsay, autant pour moi, oui.
Quai d'Orsay, Commission européenne et à l'époque EADS et Eurocopter, donc aujourd'hui Airbus, qui a d'ailleurs porté plainte, contre X. Donc on sait que le renseignement allemand a des capacités d'interception non négligeables. Et puis il y a eu un très bon papier dans le Nouvel Obs que vous avez peut-être vu passer il y a 2 ou 3 jours sur la manière dont la DGSE, donc le renseignement extérieur français, écoute les câbles sous-marins. Donc on a des capacités. Il y a des échanges d'informations, il y a des échanges bilatéraux entre l'Allemagne et les États-Unis, entre la France et les États-Unis, etc. Après, pour ce qui est de l'espionnage de la Maison-Blanche, là, on ne peut que conjecturer en se disant que ce n'est peut-être pas forcément une priorité non plus.
Et quand vous parlez d'échanges bilatéraux entre Français et Américains, on pense notamment à la lutte contre le terrorisme, puisque la France est un des partenaires des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme à travers le monde, et notamment au Sahel et au Moyen-Orient. Merci à vous vraiment d'avoir été avec nous, Amaël Guiton, journaliste à Libération, spécialiste des questions de cybercriminalité, et je signale au passage votre ouvrage « Hackers au cœur de la résistance numérique ». Dans 10 minutes maintenant, la Libre Antenne, vous nous appelez, vous commentez l'actualité de votre choix. D'autres questions, ce sera évidemment lundi, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que lundi, nous serons théoriquement au lendemain du référendum en Grèce, et nous répondrons pour l'occasion à toutes vos questions sur la crise grecque, sur le bras de fer entre le Premier ministre Alexis Tsipras et ses partenaires européens. Vos questions également sur les conséquences d'une sortie, peut-être, hein, de la Grèce, de la zone euro. Toutes vos questions nous intéressent, même celles qui vous semblent les plus simples. 33 9 693 693 70. Et vous pouvez également nous envoyer vos questions par courrier électronique appelaupluriel.actu@rfi.fr et les réseaux sociaux. Dans un instant, donc, le point complet sur l'actualité. Et on viendra tout de suite après pour la Libre Antenne, pour parler notamment de la tournée du président Hollande en ce moment même sur le continent africain. Il est en Angola, il est attendu dans les prochaines heures au Cameroun. On parlera également de la disparition d'une des grandes légendes du football africain. Il est décédé en début de semaine.